Très heureux de lancer ces états généraux de la critique de projets d'espace public.
Bilan des échanges et déclaration commune des états généraux de la critique. Neuvième et dernier épisode des états généraux de la critique du projet d'espace public, réunis les 21 et 22 novembre 2023 à l'École de la nature et du paysage à Blois. Un podcast présenté par le réseau Critique et Projet de paysage.
Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Tout le monde est là, les trois groupes sont revenus, hein, c'est bien ça. Est-ce que le groupe qui était dans le hall est là ? Le groupe qui était ici est là. Et le groupe qui est avec moi est là, je les reconnais. Alors on va inviter les... Alors déjà on va vous présenter comment se passe ce tout dernier petit moment ensemble. On va d'abord faire le retour des trois ateliers de manière assez succincte. Pour ensuite, tous les membres du réseau vont venir raconter un étonnement, quelque chose qu'ils souhaitent retenir et transmettre à l'Assemblée. Et ensuite, on gardera un temps ouvert pour que vous puissiez faire la même chose. Et donc, tout cela doit être terminé vers 17h pour que chacun puisse ensuite avoir le temps de rentrer chez lui. Donc, j'invite tous les membres du réseau, ou alors d'abord les rapporteurs peut-être. Donc, peut-être ceux qui vont rapporter des trois tables rondes, donc Laurence. Les autres, c'est qui ? C'est toi, Hervé ? Tu rapportes ton groupe ? Et le troisième, c'est Jean-Baptiste ? On n'avait pas dit qu'on demandait à des gens qui n'étaient pas nous. Ok. Il y en a qui n'ont rien compris aux consignes. Tu t'es fait avoir, Laurence, ouais, effectivement. C'est trop tard. Tu as à la fois notre caution physique et notre caution. Alors, je leur laisse tout de suite la parole. 5-6 minutes à peu près chacun. Et puis ensuite, j'inviterai tous les membres du réseau à venir. Et puis ensuite, on vous donnera la parole. Et ensuite, ce sera terminé. Alors, qui commence ? Groupe 1, recherche ? Hervé.
Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans notre groupe ? On a commencé par évacuer des choses sur lesquelles on pensait être d'accord. Donc, pas très intéressante à brasser entre nous. Donc on a évacué par exemple l'idée que ce travail sur la critique pouvait alimenter une recherche sur la théorisation du projet de paysage. Voilà, ça on est assez convaincu de ça, donc on a commencé par dire ça. La réflexion critique peut aussi nourrir une recherche sur l'histoire des pratiques professionnel des paysagistes, ça on en est convaincu aussi, nourrir aussi une recherche sur la réception sociale des projets, etc. Donc voilà, on a évacué ce genre d'idées pour ne pas trop perdre de temps avec ça. Peut-être c'est une mauvaise idée, hein. Peut-être vous allez avoir envie d'y revenir. On a aussi reconnu d'entrée de jeu qu'il y avait un certain nombre d'angles morts dans notre réflexion, comme par exemple la distinction entre la critique et l'évaluation. Hier, il y a eu une réflexion, une remarque de quelqu'un sur l'évaluation des politiques publiques, voilà, comment on s'inscrit là-dedans, ou est-ce que c'est quelque chose à côté. Donc critique et évaluation, critique et analyse, critique et observation, lecture. Bon, voilà. Et puis, une autre chose qui revient régulièrement dans nos discussions au sein du groupe, du collectif critique, c'est le parallèle qu'on peut faire entre ce qu'on essaie de faire sur l'espace public, donc une critique d'espace public, et puis des critiques déjà existantes depuis longtemps, des critiques d'art, critiques cinématographiques, critiques littéraires. Voilà, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on aurait quelque chose à gagner à essayer de mobiliser tout cet état de l'art et d'essayer de comparer ce qu'on est en train d'essayer de faire avec tout ça. On ne l'a jamais fait vraiment. Voilà, donc on était conscient de ça. Ensuite, la discussion s'est orientée sur trois points. Le premier point, c'est qu'on a exprimé entre nous des avis un peu divergents, et donc c'est ça qui nous a intéressés, à propos de la posture scientifique et de la posture critique. Entre nous, voilà, il y a ceux qui pensent que ces deux postures-là, même si elles sont distinctes, sont conciliables, d'autres qui pensent qu'elles sont distinctes et difficilement conciliables. Donc je ne vais pas faire un état complet de la nature de nos échanges, mais on sentait bien là qu'il y avait des divergences là-dessus. Deuxième point, j'ai proposé comme exercice un peu ludique, disons, pour alimenter la discussion, d'imaginer une thèse, puisqu'on était sur un groupe recherche. Quelle thèse on pourrait imaginer sur la critique d'espace public. Donc là-dessus, par exemple, Patrick Moquet nous a dit « Moi, j'imagine une thèse monographique à propos d'un concepteur. Voilà, ça pourrait être une thèse de cette nature-là. » Sonia nous a dit « Une thèse qui essaierait de mobiliser les méthodes et les outils de la critique. » Ou alors une thèse qui prendrait pour objet les recherches conduites dans les revues critiques. Voilà. Frédéric Pouzin nous a dit moi j'imagine pas une thèse là-dessus. Ça me vient pas. Moi-même j'ai proposé l'idée d'une thèse qui expérimenterait une critique collective. Comment on peut imaginer un exercice collectivement et quel sens ça aurait de concevoir une situation collective et populaire d'une critique donc partagée. Voilà. Il y a eu aussi une remarque de notre collègue sur le rattachement disciplinaire de cette thèse. C'est Quentin qui s'est questionné là-dessus. Cette thèse, finalement, elle serait. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle soit pluridisciplinaire entre SHS, justement, dont on a dit tout à l'heure que c'était ces disciplines-là qui portaient plus facilement la critique, entre SHS et le champ disciplinaire du paysage. Si tant est que ce soit un champ disciplinaire, enfin, certaines écoles doctorales l'identifient comme thèse. Donc un exercice autour de ça. Donc, quelle thèse Et puis cette discussion sur la thèse nous a conduit aussi à en fin d'échange là-dessus, à nous poser la question du format même de cette thèse. La thèse est un format institutionnel imposé aujourd'hui et qui oriente le contenu, bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure à propos des revues même de critique. Donc une thèse sur la critique nécessiterait sans doute un format particulier. On n'a pas poussé la réflexion plus loin, mais on s'est rendu compte qu'on était prisonnier de face à cette question-là. Et puis, autre conclusion par rapport à cet échange, Sabine nous a dit que peut-être finalement c'était pas ça la bonne idée. C'était pas forcément d'imaginer une thèse, parce qu'une thèse est un exercice solitaire et c'est toujours ça aujourd'hui. Et c'est difficile d'échapper à ce format-là, et que peut-être c'est plutôt un module d'initiation à la recherche qui serait le plus stimulant et le plus intéressant pour produire des situations d'intersubjectivité plus favorable à l'exercice critique. Et puis enfin, donc troisième échange, c'était à propos de la diffusion de la recherche et des supports d'expression des recherches sur la critique. Là, il y a eu une convergence, un consensus, disons, pour dire que finalement, l'article n'était sans doute pas la meilleure forme, l'article scientifique, et que l'enjeu était d'imaginer des moyens d'expression et de diffusion propre à véhiculer la controverse. Voilà, comment on peut exprimer la controverse à propos de la qualité d'un espace public. Donc, est-ce que c'est la vidéo ? Est-ce que c'est... Il y a plein de choses. On a beaucoup fait le parallèle avec Le Masque et la Plume, cette émission radio que vous connaissez. Est-ce qu'on peut imaginer un exercice comme ça sur la critique d'espace public ? Et peut-être qu'on se disait surtout que ce type de format-là serait sans doute plus facilement appropriable et utile à la maîtrise d'ouvrage dont on a à plusieurs reprises dans les deux jours pointé la déficience, enfin le problème de formation. Enfin, il y a un enjeu de formation de la maîtrise d'ouvrage à nos questions, et donc là on aurait peut-être un moyen plus efficace pour atteindre cet objectif. Voilà.
Alors pour le groupe 2, donc on était sur la pratique et la critique. Je vais quand même commencer par le fait que on a buté sur des questions de termes et que on s'est quand même dit qu'il y aurait la nécessité de redéfinir certaines choses. Je donne des exemples entre démarche de projet, processus de conception, quelle est l'étendue de la critique, la distinction entre le conseil dans le processus de conception quand on est face à des conseils, est-ce qu'on peut appeler ça critique, etc. Donc il y a des problèmes de définition de termes qui peuvent être à un moment donné bloquants pour avancer sur ces questions. Bref, c'est un préambule. Mais on s'est quand même accordé, déjà sur l'idée, sur l'opportunité même du thème, c'est-à-dire qu'on a noté quand même que dans tous nos débats avec le monde de la conception, des concepteurs, depuis hier, on voit bien l'opportunité de rapprocher, intégrer critique et pratique. Et que ça n'a pas soulevé d'objection. Tout le monde est d'accord pour essayer d'améliorer ce rapport-là. Deuxièmement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on critique. Ça aussi, on a été assez d'accord pour dire c'est l'objet de la critique, il est assez large. C'est pas que le projet, c'est pas seulement l'espace, c'est l'ensemble du processus, c'est aussi la commande initiale, c'est aussi en aval la gestion du projet, c'est l'ensemble du processus de conception qui doit faire l'objet de la critique. Après, il y avait la question de la temporalité, qu'on a aussi bien débattu depuis hier et qu'on a reposé encore sur la table. À quel moment on critique ? Donc, il y a eu plusieurs postures. Hein, on a entendu, voilà, on critique seulement quand le projet est réalisé. Le projet incarné dans un espace est le seul objet possible de critique. Ou, au contraire, la critique, elle peut intervenir ou elle doit même intervenir. Certains intervenaient là-dessus en disant c'est à toutes les étapes du processus, voire même avant que ça commence, d'avoir de valider déjà une démarche critique avant de commencer à faire du projet. Donc cette question de la temporalité au long du processus de projet et à quel moment intervient la critique, on voit qu'il y avait plusieurs quand même positions possibles. Parce que derrière, selon le moment où on le critique, la visée n'est pas la même, le rôle de la critique non plus, etc. C'est-à-dire qu'on va d'une visée de la critique, on va dire améliorative, corrective en cours de projet, à une critique qui finalement va plutôt évaluer quand le projet est réalisé ou on va en tirer les enseignements pour plus tard ou pour des autres projets. Donc c'est clair que selon le moment où on fait la critique, la visée n'est pas forcément la même. Après, je vous liste un peu les questions, parce qu'à chaque fois, on n'a pas vraiment de conclusion, mais on a quand même traité ces différentes questions. Il y a la question de qui critique, parce qu'il y a un moment donné, on a dit la critique doit être située. Donc savoir qui parle. Qui critique et qui est autorisé à critiquer par rapport au concepteur. Et c'est là où je m'autorise à faire un peu deux grandes familles qui sont caricaturales. Il faut le prendre comme deux pôles un peu extrêmes, même si forcément tout est dans la nuance et quelque part au milieu. Mais on a d'un côté, on va dire, des familles, des positionnements qui disent que la critique, en fait, elle est intégrée quelque part au processus de conception, elle accompagne le processus de conception, c'est une conception étendue de la critique qui intègre, y compris l'autocritique du concepteur lui-même ou son équipe, qui est bienveillante aussi, qui dit c'est un enrichissement, on a parlé d'intelligence supplémentaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le flux. Dans le flux de la conception, la critique, elle accompagne. On a entendu aussi qu'elle doit être autorisée, elle doit être consentie. On ne fait pas une critique, on n'impose pas une critique. On doit, quelque part, être dans un consentement. Et cette notion de critique constructive. Et à l'autre bout de la chaîne, même si, bien sûr, personne n'a dit qu'il fallait une critique négative, violente et tout ça, on est bien d'accord, mais il y a le côté, effectivement, qu'une nécessaire extériorité de la critique qui doit, à un moment donné, interroger, suspendre, même si c'est temporaire, le processus de projet, dire stop, être quelque part aussi une contre-voix au concepteur. Et donc là, qui peut porter le poids, c'est vraiment le terme qui a été utilisé, de cette voix. Le commanditaire lui-même n'est pas forcément non plus le mieux placé. On a parlé pas mal d'AMO, de paysagiste conseil, comment un père, à un moment donné, un paysagiste, qui est là dans le processus, mais qui ne fait pas partie du pool de conception, mais qui est peut-être dans une école ou alors un collectif. Voilà, comment une voix peut à un moment donné avoir la légitimité de porter la critique au projet. Voilà. Et puis, y a quelques ouvertures aussi. J'ai oublié de parler. On a à un moment donné aussi parlé un petit peu de la normalisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette question des critères, si on va au bout de la question des critères, il y a quand même, à un moment donné, on doit pouvoir évaluer un projet qui se conforme à des critiques, qui respecte une méthodologie critique, et qu'il y a, cette idée un peu qui planait à un moment donné que ça pouvait donner lieu à une sorte de conditionnement, même pourquoi pas du financement ou d'aide à un projet qui est labellisé projet critique. Voilà. Je conclue pas parce que je pense que j'ai déjà été très long.
Alors, dans l'atelier donc, qui s'est penché sur la pédagogie, si je fais une présentation un petit peu en entonnoir, on a commencé par, ou terminé d'ailleurs, plutôt par poser le fait que l'apprentissage de la critique, c'était vraiment quelque chose de fondamental. C'était même une mission républicaine pour nos différentes institutions. C'était une formation à la citoyenneté, c'était un objectif de démocratie vraiment au sens profond du terme, et qu'il y avait donc une urgence à vraiment se repencher sur et à travailler cet apprentissage là. Cet apprentissage de la critique, il doit toucher donc de manière très transversale toutes les phases du projet, d'amont en aval, donc vraiment avec un axe temporel très large, et aussi toucher de manière horizontale tous les acteurs, des acteurs de l'espace public au sens très large, et à la maîtrise d'œuvre, etc. Dans nos institutions, cet enseignement donc de la critique, elle doit se pratiquer tout au long des formations, et là aussi de manière constante. C'est pas un cours sur la critique, c'est pas une discipline, c'est bien une posture. Donc c'est une posture qui doit être pratiquée en continu, qui doit être réflexive aussi sur les enseignements eux-mêmes. Donc une critique partagée des enseignements avec les étudiants, dans une pratique de la critique collective, pas forcément vu comme un jeu de ping-pong, comme on a pu en parler sur les médias, par exemple, ce matin, mais plutôt vraiment comme un échange de co-construction critique. Que cette co-construction, donc, elle se fait aussi vraiment de manière large dans toutes les formes d'enseignement, que ce soit au sein des écoles du paysage, mais d'autres écoles ou des universités, qui touchent aux formations sur l'approche des espaces publics, notamment par le paysage. Et que ça doit aller au-delà des instances de formation... initiale, merci, mais pour toucher la formation continue, et donc avec des partenariats avec les CAUE, les CNFPT, la FFP, enfin tout un tas de partenaires avec qui on travaille, avec qui on pourrait formaliser un petit peu cette formation à la critique. Dans les outils ou les moments que ça pourrait prendre de manière peut-être un peu plus construite, on a beaucoup échangé sur les stages, qui sont peut-être un espace encore assez ouvert pour justement structurer un petit peu cette formation à la critique, sur le rendu critique de l'approche qui a été faite à la fois dans les pratiques, les objectifs, les outils, etc. dans le cadre du stage. Ce qui veut dire aussi en amont calibrer le stage avec les tuteurs de stage et l'organisme pour qu'il soit prêt, disponible, et laisse aussi la marge à l'étudiant de travailler là-dessus. Et puis on a terminé par échanger sur différents formats possibles. Au-delà de l'écrit, donc ça rejoint un petit peu aussi ce que tu as souligné, Hervé, notamment par exemple via les podcasts, la vidéo, enfin d'autres supports que peut-être l'outil, le cours ou l'écrit.
Alors, si j'ai bien compris, la chorégraphie collective qu'on avait imaginée, c'était que suite à ces comptes rendus qui sont forcément
limité par rapport à la qualité des échanges. Donc par là, on entend peut-être que ce serait bien de récupérer des notes de chaque atelier. L'ensemble des membres du réseau critique pouvaient venir devant pour peut-être transmettre un point qu'ils souhaitent garder ou soulever, etc. On essaye de faire ça de manière courte, parce qu'on est nombreux, et surtout pour avoir les 20 minutes qui nous resteront pour vous laisser éventuellement faire la même chose, plutôt dans l'idée d'une conclusion ouverte, donc peut-être aussi d'une forme de proposition. En tout cas, ce sera très, très ouvert. Et voilà, et donc je confie tout de suite le micro à notre cher Denis. Tiens, Denis.
Donc j'espérais qu'une trentaine de collègues, notamment enseignants-chercheurs, se précipiteraient pour intégrer Banc Public, pour produire une critique régulière et bien diffusée. 36 collègues pour publier un petit article par mois. Ça veut dire pour chacun d'eux écrire un petit article tous les 3 ans. Est-ce si compliqué ? Est-ce que ça ne devrait pas faire partie de nos missions de service public ?
Bon, je vais faire moins mélancolique alors peut-être. Pas plus, moins. Moi, j'ai été frappé, je m'y attendais, mais vraiment agréablement surpris par la très grande horizontalité de toutes les thématiques et de toutes les manières dont cette idée critique a pu être abordée dans les 2 jours. Et je trouve que c'est assez encourageant. Après, va se poser la question, enfin, nous, pour nous, se pose la question de comment on prolonge cette idée, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce qui s'est passé là pendant 2 jours. Mais enfin voilà, cette grande traversée horizontale de tout un tas de champs, de thématiques, de manières de se poser cette question critique, je l'ai trouvée assez encourageante.
Moi, je n'avais pas évacué l'hypothèse hier matin que notre aventure s'arrêterait maintenant. Et là, je suis convaincu qu'elle va continuer, en tout cas qu'il faut la continuer. Et donc, moi, je retiens ça. En fait, c'est vos encouragements, enfin, si je n'ai pas rêvé, à nous inciter à prolonger ce qu'on a commencé à faire. J'ai été marqué hier par l'idée qui s'est imposée, je trouve, hier matin, d'essayer de penser un moment de la critique dans le processus de projet. On n'avait, je crois, jamais vraiment formulé les choses aussi clairement entre nous. Et puis il y a un deuxième aspect moi qui me motive à titre personnel, c'est penser la critique plus en amont des projets et donc sur la phase programmation. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire.
Moi j'ai découvert que peut-être je ne fais pas de la critique. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le groupe sur la recherche. Puisque finalement peut-être que ce que je fais c'est plus de l'étude de projets. Enfin, ce qui m'intéresse c'est de créer de la connaissance autour de ce champ du projet, plus que de créer de la controverse. Voilà. Donc il y a peut-être en fait 2 manières d'aborder la critique.
Moi, je crois que je retiens, c'est la chaleur de l'échange oral direct. Et vraiment la très grande différence quand on veut se lancer dans cet exercice critique entre être loin des gens à qui on parle et d'écrire et la violence que ça peut générer et être en face d'eux en train d'échanger sur ce qu'ils ont fait. Et voilà, je garde ça.
Moi, je voulais aussi vous remercier parce que c'était riche et qu'on n'a pas souvent l'occasion de se croiser entre enseignants-chercheurs, praticiens et étudiants. Et moi, ce que je note de ces 2 journées, c'est la nécessité de dynamiser ou de redynamiser la critique, que ce soit dans les lieux, pour qu'il puisse y avoir des lieux de débat, des arènes qui permettent la critique, qui permettent de faire accéder la critique à différents acteurs et à différents temps du projet.
Alors moi, j'ai épuisé mes capacités de synthèse, donc j'ai plus aucun recul, à part remercier tout le monde d'avoir rendu possible ce moment dense, c'est vachement fort. Mais non, je voulais juste, s'il y avait juste un truc, c'était le délire qu'on s'est tapé à midi sur, ça me hante depuis tout à l'heure, un laboratoire mobile critique, un dispositif qui tiendrait un peu de l'archive, de l'exposition et du studio d'enregistrement où on pourrait inviter vraiment tout un chacun, nos étudiants, etc., à faire de la critique à partir du matériau d'un projet. Mais...
La caravane critique. Bon, bah, c'est un super projet. Je vote pour, je me mets dedans. Moi, je voulais vous remercier surtout pour les échanges qu'on a eus avec vous. Ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. Je dois avouer que moi aussi, là, les capacités de synthèse, je ne les ai pas encore, mais c'était extrêmement riche. Et puis, même, je pense, au sein du réseau, en fait, des nouvelles idées apparaissent. Je m'aperçois qu'Hervé veut travailler sur tout ce qui est plus en amont. Je le rejoins. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est grâce à vous que j'ai réussi à mieux comprendre que ça aussi, ça m'intéressait beaucoup dans cette question critique. Donc, un grand merci à vous, quoi.
Oui, on vous remerciera à nouveau, mais voilà, c'est un grand plaisir de voir cette école qui est mon lieu de travail quotidien avec autant de gens différents. Donc ça fait partie, en fait, pour moi, d'une sorte de critique en acte, que vous soyez là aujourd'hui. Ça ne va pas de soi. Et voilà, je voulais à la fois terminer sur une note, disons, de confiance dans le fait qu'on est quand même assez nombreux et nombreuses d'horizons différents à voir la nécessité, le besoin de ce genre d'exercice critique. Après, on n'est pas si nombreux que ça non plus, et on est un petit monde quand même. Donc au dehors, partout où vous allez, je pense que c'est intéressant de nous aider en tant que collectif, là, réseau, mais vous-même, voilà, avec nous, à identifier aussi les obstacles, les résistances à la critique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de critiques, au fond ? Pour moi, ça m'a paru assez évident dès que, au fond, Denis et Sabine et les quelques autres qui avaient lancé ces idées-là de critique au départ m'ont proposé de les rejoindre. Mais en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que ça n'est pas tant que ça. Mais je suis rassuré de voir que pour vous, ça fait sens aussi. Donc, continuez, proposez partout où vous pouvez des espaces critiques qui ont tendance peut-être à se réduire. Et je pense que parler d'espace public et de critique, je l'ai dit tout à l'heure, mais hors micro, c'est tout à fait consubstantiel. C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'espace public, il y a de la critique, si on la prend au sérieux les deux termes. Mais en fait, ça n'a pas toujours existé. Ça a peut-être deux siècles et encore pas partout. Il y a plein d'endroits du monde où ça n'existe plus, où ça n'a jamais existé peut-être. Donc voilà, battons-nous.
Moi, ma réaction va aller dans le sens de ce qu'Olivier vient de dire. Elle est liée aussi au succès que représentent ces états généraux, parce qu'on est très heureux de voir qu'on était très nombreux. C'était un peu inespéré à un moment donné, donc on est très content de ça. Et donc par rapport à ça, on est très nombreux, mais on est très nombreux en tant que professionnels. On voit qu'il y a eu des étudiants jusqu'à la maîtrise d'ouvrage en passant par tous les champs d'activité. Donc ça, c'est un super succès. Maintenant, je me dis, c'est peut-être un enjeu supplémentaire, c'est comment, maintenant qu'on est consolidé, comment on ouvre, comment on démocratise la pratique de la critique et comment on trouve d'autres moyens d'exprimer la critique d'espace public, de la faire exister dans le débat public vers d'autres médias peut-être moins spécialisés, d'autres formes. Ça veut dire aussi, on n'est peut-être pas obligé de faire des mèmes, mais on peut inventer d'autres formes. Donc ça reste à faire et je me dis que c'est un chantier qui m'intéresse. Et je profite d'avoir le micro pour remercier vraiment Lolita et Olivier et puis l'accueil à Blois, parce que c'était super. Enfin, vous avez fait beaucoup de boulot et c'était... On était trop bien là. Merci beaucoup.
Moi aussi, j'arrive au bout de ces deux journées à une saturation intellectuelle, mais j'ai vraiment apprécié la richesse et la densité des échanges qu'on a eus. Pour ma part, je retiendrai cette dimension pluridisciplinaire, voire même interdisciplinaire, de la critique, je trouve, qui a été évoquée à plusieurs reprises, et même dans notre dernier atelier. Et moi, qui arrive du monde des sciences du vivant, en tant qu'écologue, je pense qu'aussi on a vraiment une richesse à aller nourrir dans la dimension critique de l'espace public, en allant aller voir l'autre. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie au sein du réseau. Et voilà, ce que je retiens aussi, c'est que je pense qu'on chemine tous individuellement d'où on part. Enfin, voilà, je pense que la critique se construit aussi progressivement à partir de d'où on vient. Et voilà, je pense qu'il faut aussi se laisser le temps pour maturer et exprimer une critique.
Merci beaucoup. Je rejoins tous les membres du réseau. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Audrey, parce que moi, je m'étais dit que c'est fou à quel point, je pense, la question de la critique nous permet d'être toujours en déplacement, en mouvement, et notamment dans son propre chemin. Et je remercie évidemment tous les membres du réseau pour ça, parce que c'est pas si facile. Effectivement, je rejoins la nécessité aussi de ces déplacements au sein de nos institutions qui vont pas si bien que ça.
et aussi de la nécessité de la critique pour toujours changer de case, ou en tout cas ne pas rester dans une case. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, et j'ai vraiment eu l'impression que les échanges reflétaient ça aujourd'hui. Donc je remercie en fait évidemment les participants, mais la diversité des intervenants et des participants. Et donc moi, je retiens comme idée, mais ça a déjà été dit, donc on va peut-être faire un groupe avec Hervé et avec Rémi, mais je rejoins l'idée de la critique du projet d'espace public dans sa plus grande temporalité, notamment dans presque les naissances des politiques publiques et les naissances des idées de transformation, donc au plus près des maîtrises d'ouvrage, mais aussi de processus qui sont en grande transformation actuellement et qu'on peut modifier, et là-dedans pour peut-être aller davantage sur questionner la critique et la commande, et pour être au plus près aussi à la fois de ce qui se tente dans les travaux de fin d'études des étudiants. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi autour de ça qui est très présent aujourd'hui dans les écoles et que j'encourage de toutes mes forces, mais aussi dans le monde professionnel avec des maîtrises d'ouvrage qui cherchent les bonnes à changer des commandes. Et donc la présence de certains d'entre eux dans la salle était très importante pour ça. Donc voilà, je retiens vraiment cette dimension-là dont je n'avais pas forcément pris complètement conscience auparavant. Alors maintenant, l'idée, c'est de vous laisser aussi la parole pour faire le même type d'exercice. Vous pouvez soulever une question, une remarque, quelque chose que vous retenez, quelque chose de négatif aussi, évidemment. Et voilà, on se dira merci à la fin. Donc on vous laisse le micro. Il y a deux micros. Qui a envie de dire quelque chose ?
Je ne pouvais pas ne pas parler, évidemment. Bon, moi, j'ai appris une chose, déjà, qui oriente un peu. C'est que l'école de Blois est aussi une école hôtelière. Une école hôtelière. Et que je pense que l'idée que vous laissiez sous-entendre d'un food truck de la critique qui traverserait les espaces publics du paysage est excellente.
Mais je voulais juste vous dire merci. Donc déjà, effectivement, pour la qualité de l'accueil. Donc moi, je repars enrichi dans le cadre de ma thèse. J'avais peut-être trois idées. Enfin, j'avais des attentes, a priori, quand j'ai lu l'invitation, c'était qu'on aille faire une visite d'un lieu et qu'on aille concrètement faire de la critique ensemble sur le terrain. Et après, on sait que c'est un exercice délicat, puisque ça demande aux élus, aux techniciens et aux acteurs qui sont intervenus dans cette fabrique-là d'expliciter, de s'ouvrir à un feu de critique. Mais peut-être qu'une visite aurait permis de concrétiser tout ça. Peut-être aussi la présence d'une maîtrise d'ouvrage, ça a été dit, dans les tables rondes. Parce qu'il y a eu beaucoup de phrases qui ont été énoncées disant que les élus comprennent rien, etc. Peut-être avoir des exemples de bonnes pratiques permettrait de contrebalancer ça et de montrer qu'on n'est pas seulement une posture de juge, mais qu'on est interdépendant. Et après, naïvement, égoïstement, depuis ma petite lunette, c'était peut-être avoir des critiques moins sur les métropoles et peut-être plus sur l'espace rural, puisque... je repars avec un petit goût, avec peut-être des éléments méthodologiques, des références généreuses, mais sur la question de l'espace rural, avec la pénurie de moyens, au sens large, de ressources, comment qu'on fait, quoi ? Et est-ce qu'on peut autant critiquer ce genre de processus-là qu'en métropole ? Mais en tout cas, merci sincèrement et à bientôt.
Moi, j'avais deux questions assez simples. Comment on adhère au réseau et à quoi ça engage ? Et la deuxième... Ça coûte éventuellement. Et la deuxième, est-ce que vous seriez ouvert à l'éventualité d'accueillir des étudiants dans le réseau ? Voilà.
Je suis Xavier Laurière, je travaille dans une collectivité territoriale. Alors, je suis un peu en dehors, finalement, par rapport à pas mal d'entre vous. Je suis un peu dans un autre cercle, on va dire, mais j'étais ravi d'être là sur ces deux journées, à l'invitation de Lolita, merci. Et du coup, c'est vrai que je réalise à quel point tout ce que vous dites ça a déjà été dit tout à l'heure, peut vraiment intéresser les élus. Quel message vous avez envie de leur envoyer aux institutions, en tant que financeurs, en tant que porteurs de projets, et donc, quelque part, comment faire en sorte que cette défense de la critique puisse être aussi un message entendu, finalement, par les élus, qui puissent en être fiers de se dire « j'ai un projet qui a été enrichi par la critique ». Et finalement que ce soit plus vu comme quelque chose de positif qu'un bâton pour se faire taper par l'opposition. Et voilà, je pense que c'est aussi le gros frein pour lequel aujourd'hui on a du mal à avoir de la critique sur les projets d'espace public. Voilà, donc je pense que typiquement les conclusions de vos travaux mériteraient d'être envoyées dans les réseaux, que ce soit les réseaux Intercommunalité de France, les réseaux voilà, même au niveau national, au niveau du CESE, pourquoi pas. C'est des institutions qui, je pense, pourraient aider à décloisonner vos réflexions.
Vous m'entendez? Ah oui. Je voulais... c'était vraiment très intéressant. Et votre histoire de caravane m'a fait penser tout de suite à quelque chose. Au bureau des guides qui organisent régulièrement des marches à Marseille et notamment qui avait créé un outil de caravane pour récolter des témoignages d'élus, d'habitants, etc. Et du coup, je me suis dit, pour apporter un truc en plus à toutes ces deux journées qui étaient très enrichissantes et pour rebondir sur les histoires de faire des visites, je me dis, allons, le bureau des guides, ils disent penser avec nos pieds, donc critiquer avec nos pieds et aller sur le terrain aussi. Voilà.
Moi, je trouvais que c'était un beau moment. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des séminaires ou des colloques, je trouve que ce sont des beaux moments pour se réunir entre différents... Enfin, moi, je suis étudiant, mais vous travaillez, il y a des chercheurs, des chercheuses. Et du coup, c'est très intéressant de se réunir. Et je trouvais ça intéressant de prendre le temps de la critique. Et je pense que c'est un bon temps pour faire un point au final sur ce qu'on pense toutes et tous et vers où on veut aller. Et c'est un truc qui me fait peur. En projetant dans le monde du travail, c'est que ça va vite et le paysage va vite et la société va vite. Et je trouve que quand on prend ses temps, on le ralentit un moment et c'est rassurant aussi. Parce que du coup, il y a plein d'idées et du coup, j'étais très content de participer. Merci.
J'imagine que vous allez répondre à un moment donné à la première question qui était posée sur l'adhésion au réseau. Enfin, la suite, comment vous envisagez ça? Comment ça se poursuit? Avec quelle modalité ou des, voilà. Et puis pour revenir aussi sur ce qui a été dit plusieurs fois, effectivement, par rapport au fait d'aller vers l'AMO, les élus, je pense qu'on est, plusieurs en fait, être enseignant-chercheur. Enfin, je vois à ESO, on a ouvert un groupe de réflexion là-dessus parce qu'on s'est trouvé à être plusieurs, à être à la fois élus et enseignant-chercheur. Et c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir. On apprend énormément. Moi, depuis 3 ans que je suis adjointe et conseillère déléguée à l'agglo, je vois des choses très différemment et je vois encore plus la nécessité, effectivement, d'aller vers ce public-là et d'aller vers les modalités d'échange, arrêter des formes de face-à-face ou de... comment fluidifier et améliorer le débat, y compris ce que tu disais de manière très juste, qu'est-ce qu'on dit entre nous dans la majorité, qu'est-ce qu'on dit face à l'opposition, comment on crée du débat public sans se faire taper dessus, c'est pas si simple que ça quand on est dedans. Et c'est là qu'on voit pourquoi ça marche pas.
Alors, moi, je retiens le besoin d'utiliser avec rigueur le terme critique, ce que je ne fais pas forcément. Le fait que la recherche est un outil pour la critique, mais que la critique, c'est un hors-sentier par rapport à la recherche, et que c'est des perspectives, on a dit, joyeuses et stimulantes.
Bon, enfin, donc moi, je suis content parce que je découvre le réseau. Je ne savais pas que ça existait. Pourtant, je connais Denis depuis longtemps et j'étais critiqué, mais je ne savais pas qu'il y avait un réseau. Voilà. Et ça n'a pas fait mal. Mais en fait, je pense que c'est très bien parce que c'est une démarche qui met en recul la profession par rapport à elle-même. Et c'est comme on est une si petite profession, c'est un excellent levier de mise en évidence, c'est-à-dire que se mettre en recul par rapport à soi-même, c'est démultiplier sa présence aussi. Donc je pense que par rapport à ça, c'est important. Voilà. Donc, et oui, il y a eu plusieurs fois des petites remarques sur les PCE, les paysagistes conseils de l'État, dont j'en suis, et Philippe Hilaire l'est aussi. J'ai cru comprendre que vous pensiez qu'on avait un rôle critique aussi, comme ça, au sein des organismes. On en est très très loin, c'est-à-dire qu'on est juste dans la tentative de faire émerger la notion de paysage au sein des DREAL. Donc il y a énormément de boulot. Donc voilà. Ici on est entre gens parfaitement convaincus, mais quand on est PCE, on est vraiment au milieu du désert. Ouais, voilà.
Oui, moi je voudrais vous remercier beaucoup pour ces 2 jours. J'ai trouvé la qualité des échanges vraiment impressionnante. Et puis, ce qui me frappe quand même, c'est le dynamisme que vous avez. Et vraiment, c'est très encourageant à un moment où Y a beaucoup d'injonctions qui viennent par le haut. On nous enjoint de se comporter comme ci, comme ça, de faire la recherche sur tel sujet et pas sur tel autre. Enfin bref, disons qu'on est dans une période pas toujours très facile. Et là, je vois une super initiative qui vient d'en bas. Vous portez les choses par vous-même. Et ce que je trouve de remarquable, c'est que il y a des prolongements vraiment très très intéressants du côté de la profession, c'est-à-dire que voilà, il y a des continuités qui sont évidentes du côté de l'enseignement. Enfin, donc c'est tout ça est quand même extrêmement encourageant, très dynamique. Voilà, ça fait plaisir et c'est voilà. Et donc merci.
Oui, moi je voulais dire que c'était un vrai plaisir, bon ça a déjà été dit, mais de prendre ce temps de la critique aussi, parce que parler de critique dans sa dimension pédagogique, dans ce que ça raconte de la recherche, de l'étude, ça me questionne aussi sur plein de choses, mais que du coup c'est aussi, ça dessine aussi un peu l'horizon du métier, que ça donne des espaces de visibilité, en tout cas que c'est un peu ça peut-être qu'on essaie de travailler là, et que ça donne envie que le paysage, que l'espace public soit quelque chose qui soit plus reconnu, plus connu, et qu'on arrive à en parler même dans les classes avant d'arriver jusqu'ici, au lycée, et que un jour peut-être que le métier de paysagiste soit un peu plus mixte aussi. Et voilà, c'est quelque chose aussi, je trouve, qui ressort pas beaucoup, et peut-être que c'est un truc dont à un moment on pourra parler, c'est du fait que le monde du paysage et de la conception reste encore quelque chose d'une petite classe, et que c'est une portée, enfin qu'on a une portée aussi très puissante dans le fait que on a un enjeu de diffusion de ce qu'on fait, de notre profession, tout ça. Voilà.
Oui, moi j'aimerais aussi exprimer mes remerciements pour avoir été invitée à ces deux journées vraiment intéressantes de par la diversité. Alors j'ai découvert en réalité avec bonheur ce réseau que je ne connaissais pas vraiment, malgré le fait que je connaisse Sonia et Denis. J'ai peut-être aussi mieux cerné la notion de critique, je l'espère, de moi. Et pour revenir à des questions de visibilité et d'intelligibilité de ce métier qui semble si difficile à communiquer, c'est peut-être une invitation aussi d'élargir le réseau au niveau international. Et voilà, j'espère qu'il peut y avoir des pistes de ce côté-là. En tout cas, moi, je connaîtrai de très bons interlocuteurs dans différents pays avec qui je serai très heureuse de vous mettre en contact.
Merci aussi beaucoup pour tous ces échanges depuis hier. J'en ressors très très enrichi, notamment sur la question que je m'imaginais en fait en étant lecteur de Bon Public, où la critique était un moment plutôt post-production. Et je repars avec l'idée que finalement il y a des temps de la critique qui peuvent nourrir bien en amont la dimension du projet dans tout son process finalement. Notamment avec cette part d'autocritique avec laquelle on peut aussi se donner les moyens d'avancer soi-même. Et voilà, je ressors grandi d'avoir compris un peu mieux cela.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? On va conclure du coup, on va avoir cette chance. Alors je crois que d'abord on va répondre à cette question de l'intégration ou non du réseau. Alors c'est vrai que le réseau, comme l'a dit Hervé, aurait pu s'interrompre aujourd'hui. Je crois qu'on a envie de continuer, mais on n'en a pas parlé entre nous. Donc Denis va dire un petit mot là-dessus, je crois.
Non, je ne vais pas dire un mot là-dessus. Non, simplement, je pense qu'a priori, l'idée du réseau, c'est qu'il est ouvert. Maintenant, pour l'instant, on ne s'est jamais posé la question de dans quelles conditions. Parce que pour l'instant, on est tous des enseignants-chercheurs des écoles de paysage. Donc il faut simplement qu'on prenne le temps d'en discuter entre nous pour définir les modalités, s'il y a besoin de modalités. Hein, voilà, donc ça va venir très vite. Donc si parmi vous, il y a d'autres personnes qui souhaitent rejoindre le réseau, vous savez à qui vous adresser. Voilà, donc faites-le nous savoir.
Et puis nous, on va considérer voilà, comment le réseau s'organise ou se réorganise à la suite de ces états généraux. Mais effectivement, on n'en a pas du tout parlé entre nous. Donc, voilà. Et vient le moment de se dire au revoir, si je ne me trompe pas. J'ai rien oublié. Les remerciements avant tout. Je crois qu'on avait vraiment très envie de vous remercier. Alors du coup, vous tous qui êtes présents, puis tous ceux qui ont dû partir, et puis aussi ceux qui ont voulu venir et qui ont été empêchés par des questions de transport, de maladie, de Covid, ceci, cela. Mais on était vraiment très heureux de votre présence. Et bien sûr, des états généraux n'avaient absolument aucun sens sans votre présence. Donc un grand merci à chacun et chacune d'entre vous. Un remerciement très particulier à nos structures qui ont permis d'organiser ces états généraux, évidemment d'un point de vue institutionnel, politique, mais aussi financier. Et c'est pas à peu dire. Alors, je vais remercier les écoles. Donc, évidemment, l'école du paysage de d'architecture et du paysage de Lille, l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux, Institut Agro à Angers, l'école d'architecture de Paris-Lavillette à Paris, l'école nationale supérieure du paysage de Versailles et Marseille, et l'école d'architecture de Marseille avec Alexandra Biller qui ne pouvait pas être avec nous. Et puis Aurélien, on peut maintenant intégrer Paris 1 à notre réseau d'écoles. Et bien sûr, l'INSA Centre-Val-de-Loire dans lequel l'école habite.
Et nous remercions également les laboratoires de recherche de ces différents établissements qui nous ont soutenus également, notamment financièrement. Un grand merci donc au LACT, le laboratoire de l'école de Lille, au laboratoire ESO, au laboratoire CITER, au laboratoire l'UMR Passage, au LAREP. Merci également, je pense, au laboratoire AMC. Je pense que sur la Villette, c'est AMC, hein ?
AMP.
AMP, pardon, AMP. Oui, AMC, c'est la revue. Et puis, sur Marseille, peut-être le laboratoire Projects aussi. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà, je pense qu'on n'a oublié personne.
Non. Un petit mot particulier pour les services administratifs de l'INSA, et notamment Fatia Fatmi, qui est dans l'ombre, mais qui participe à ce que ça se passe bien. Et puis, évidemment, un grand merci aux étudiants qui ont participé à la mise en scène un peu de ces deux moments, de ces deux jours, le club sérigraphie, donc il y en a certains parmi nous, notamment Emma qui est là-bas au fond de la salle, qui ont fait la signalétique et l'affiche, tous les membres de l'association étudiante Café Choc qui se sont occupés des cafés, c'est leur cafétéria et on aimait bien l'idée que ce soit mélangé. Et je te passerai après. Et la vitrine itinérante, ouais, exactement, merci, avec la présence de Charlotte Mutel, donc qui est donc la vitrine itinérante, c'est une association étudiante aussi. Oui, tout à fait. Et donc Charlotte Mutel qui a enregistré toutes ces discussions. Donc pour le moment, plutôt à valeur d'archives. Nous en discuterons entre nous d'idées de valorisation, enfin de diffusion. Et bien sûr, nous prendrons contact avec les personnes enregistrées pour avoir leurs accords en cas de diffusion. La vitrine itinérante, effectivement, une association d'étudiants qui ont organisé une exposition. Enfin, peut-être vous voulez en parler à ma place. Yanis, tu peux en parler ?
Oui, du coup, ça fait 2 ans et demi que la vitrine itinérante existe. C'est une initiative étudiante, mais qui se détache en premier lieu de l'école. C'était une idée d'ouvrir l'école à la ville de Blois, parce que on est une petite école de paysage parmi 6, si je ne me trompe pas. Et pourtant, on ne se ressent pas trop dans la ville de Blois. Et l'idée, c'était d'occuper les vitrines itinérantes de Blois, celles qui sont vides. Il y en a beaucoup dans les rues commerçantes, et de les occuper pendant un temps. Donc là, c'est celle rue Port-Chartraine. Enfin, on vous montrera en bas, il y aura un plan. Rue Port-Chartraine, grande rue commerçante, et de prendre une vitrine, de l'occuper, de présenter des artistes, de présenter des étudiants, l'école, des projets autour de l'agglo, et de réunir du monde surtout. Et du coup, le vernissage est ce soir à 18h30, et vous y êtes conviés pour celles et ceux qui restent, et celles et ceux qui veulent et qui peuvent. Et voilà. Merci.
Voilà, donc un grand merci aux étudiants qui ont participé à ces deux journées. Et donc un grand merci au réseau et à bientôt pour de prochaines aventures.
Juste une petite chose, hein. Vous signalez que de façon un peu connexe, il y a d'autres états généraux qui se préparent, qui sont ceux de l'enseignement du paysage en France. Donc c'est un événement important qui est prévu au mois de mars à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Donc on espère que voilà, peut-être parmi vous serez nombreux à vouloir participer à cet événement qui est important, qui fait suite à plusieurs mois de lutte dans les écoles l'an dernier. Vous savez que toutes les écoles d'architecture ont été bloquées pendant pratiquement un semestre, qu'il y a eu des événements de blocage, donc ça concernait automatiquement deux écoles de paysage françaises. Il y a eu aussi des événements peut-être plus ponctuels dans les autres écoles. Il y a un sentiment de crise quand même assez général, enfin de menace hein, qui porte sur cet enseignement, le manque de soutien. Ça a fait l'objet d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde il y a quelques mois maintenant. Il y a un collège des enseignants des écoles supérieures de paysage qui s'est constitué depuis un an et demi donc en inter-école pour essayer de faire valoir cet enseignement, ses besoins. Donc bref, il y a tout un mouvement là, hein, qui est né depuis quelque temps et qu'il faut porter collectivement. Et donc ces états généraux seront l'occasion de le faire.
Il y aura un autre moment de débat, je le signale. Je ne me souviens plus exactement des dates, mais je sais que quelqu'un va me les donner. Des prochaines journées doctorales, 14-15 décembre, j'en étais presque sûr. 14-15 décembre. Donc n'oubliez pas, c'est aussi un moment intéressant à Bordeaux.
Merci à vous tous pour ce bon moment et bon retour. Et vous êtes toujours les bienvenus à l'École du paysage de Blois.
Les états généraux de la critique du projet d'espace public, un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante. Les états généraux de la critique du projet d'espace public, un podcast réalisé par Charlotte Mutel de l'association La Vitrine Itinérante.